Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites, plus précisément de l'hépatite C, parce qu'un grand congrès vient de se terminer à Paris. On en parle donc avec le professeur Patrick Marcelin, qui est responsable du service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon à Clichy. Le docteur Ana Carolina Cardoso, qui est hépatologue à l'hôpital public de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil. Et le professeur Mamadou Lamine Diouf, qui est hépatologue au CHU Aristide Le Nantec de Dakar, au Sénégal. Bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Juste avant les informations, on était en train de parler des questions d'accès au traitement dans les pays en développement. J'aimerais bien vous donner la parole là-dessus, docteur Ana Carolina Cardoso. Votre pays, le Brésil, d'ailleurs plutôt un pays émergent qu'un pays en développement. Le Brésil a été absolument précurseur en termes d'accès au traitement sur le sida. Ça a été un des premiers pays à faire un système qu'on appelle de licence obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait, à copier les médicaments qui ne pouvaient pas l'être, mais sous le prétexte d'urgence médicale. Qu'en est-il pour tous ces traitements contre l'hépatite C? Est-ce que le Brésil est en train d'essayer de mettre la même chose en place?
En fait, on discute comme médecins ça entre nous parce qu'on sait que c'est très cher, c'est ça qu'on vient de dire. Les coûts sont trop chers, on peut pas payer ces genres de traitements, les nouvelles molécules pour tout le monde. Et par contre, pour le gouvernement, en ce moment, on n'a pas cette discussion. On ne sait pas s'ils font ça, s'ils pense à faire ça pour le nouveau traitement de l'hépatite C, ou s'ils vont discuter avec les laboratoires, comment faire que ça puisse coûter plus bon marché, ça puisse être plus bon marché pour la santé publique et on puisse donner ça à plus en plus de malades.
Est-ce que ça voudrait dire que vous manquez d'associations de patients virulentes comme ça a pu l'être sur le sida?
En fait, on a des associations de patients avec l'hépatite C et qui discutent beaucoup et qui viennent le meeting, au congrès pour discuter de ça. Je ne sais pas s'ils ne sont pas assez virulents, mais en fait, c'est une démarche intéressante. Par contre, si les labos, comme le professeur Marcelin disait avant, s'ils sont disponibles à discuter, de baisser le prix, de voir d'une façon différente ces différents endroits du monde. Peut-être ça peut aussi être une autre forme de traiter les cas.
Et professeur Marcelin, vous travaillez, vous, concrètement sur ces questions-là, d'essayer de discuter avec l'industrie pharmaceutique pour faire baisser les prix?
Non, c'est extrêmement important parce que en effet, il faut qu'on puisse permettre l'accès à ces médicaments très efficaces, guérir 90% des malades avec des médicaments bien tolérés, des comprimés pendant 3 mois. Il faut que on ait un accès. Évidemment, on améliore l'accès au traitement, on accélère le processus. Alors, on travaille tous autour de cette table, on travaille tous avec les laboratoires. Je dirais que les choses progressent. Les laboratoires sont très sensibles à ce concept. Les traitements sont très chers et les pays qui sont riches vont payer les traitements à leur prix puisque ça correspond bien sûr au coût du développement des médicaments, on peut le comprendre. Mais d'un autre côté, la solidarité justifie que dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, les prix soient plus bas et on travaille beaucoup avec les laboratoires qui produisent ces molécules sur ce sujet.
C'est-à-dire clairement de prix différenciés nord-sud, en
voilà.
gros.
Ouais. Je crois que, si vous voulez, les programmes qui ont été réalisés dans le domaine du sida ont été remarquables, avec des traitements moins chers, très efficaces, disponibles pour la majorité des malades. Notre objectif, en tout cas c'est ce que nous avons discuté lors de ce congrès mondial, notre objectif c'est bien sûr d'appliquer cette même méthode, c'est-à-dire que il faut absolument que ces médicaments soient disponibles pour les malades qui en ont besoin.
Est-ce que vous manquez aussi d'associations de patients suffisamment virulents sur ces questions-là d'accès au sud?
Alors, je dirais, mais professeur Lamine Diouf pourra parler bien sûr pour l'Afrique, je dirais pour l'Europe. On a des associations qui se sont organisées au cours des dernières années, qui sont très efficaces, mais il faut des associations efficaces, mais il faut aussi des politiques, les institutions nous écoutent.
Professeur Mamadou Lamine Diouf, est-ce que vous avez justement des associations de patients atteints d'hépatite C qui essayent de se mobiliser?
Il y a une association des patients atteints d'hépatite à Dakar. C'est une jeune association qui joue plus sur le terrain diplomatique présentement.
Et pas, donc ça veut dire quoi, diplomatique? Pas tellement sur l'accès aux soins, si?
Si, sur l'accès aux soins, mais sans virulence. Quoi.
Sans virulence, hein, vous voulez dire de façon douce, moins virulente que l'ont été peut-être les associations sur le sida?
Tout à fait.
Voilà, c'est ça le souci. On a Stéphane qui nous appelle de Lomé au Togo. Stéphane, bonjour. Allô Stéphane, vous êtes en direct dans Priorité Santé. Bonjour Stéphane. Bon, on a perdu Stéphane. On a Sédou qui nous appelle de Ouagadougou, au Burkina Faso. Sédou, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous êtes là. Sédou, bonjour, on vous écoute.
Bon, oui, comme je l'avais dit, c'est que c'est à travers un don de sang qu'on a détecté l'hépatite C chez moi. Voilà, sinon je ne suis pas allé faire un test, mais... Et on m'a dit d'aller faire d'autres tests complémentaires pour confirmer. Et je l'ai fait. Voilà, mais il s'est avéré le dernier que c'était positif. Mais ce que le docteur m'a dit, c'est d'éviter la consommation d'huile.
Et vous aimeriez bien comprendre pourquoi, c'est ça? Professeur Marcelin, il y a deux questions pour moi qui sont posées dans ce que dit Sédou. D'abord, comment on dépiste l'hépatite C? Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire pour voir le suivi de la maladie?
Très simple, hein, le test de dépistage, c'est la recherche des anticorps, c'est une prise de sang, c'est très simple et je pense qu'il est important de le faire comme on fait une recherche de cholestérol, de glycémie, quand on fait un bilan sanguin. Il vaut mieux savoir si on a l'hépatite ou si on ne l'a pas, puisqu'on peut en guérir. Le deuxième point, là, chez votre patient, enfin, monsieur, vous avez dit, en effet, les tests sont parfois positifs, parfois négatifs. Lorsqu'il y a des taux très bas, le test est faiblement positif, ça peut arriver. Et là, je pense que, généralement, c'est une bonne nouvelle. C'est une hépatite qui n'est pas active, parce que le test est très positif quand l'hépatite est active. Donc ça, il ne faut pas se précipiter dans l'hépatite C, toujours se donner le temps de faire un diagnostic définitif et de décider d'un traitement si nécessaire.
Et alors qu'est-ce qu'on fait après comme examen pour voir comment évolue la maladie?
Alors, il y a une chose très importante, c'est on a dit le traitement antiviral, il est très cher. C'est vrai, on espère pouvoir obtenir des traitements moins chers pour beaucoup de pays. Mais il y a déjà une chose extrêmement importante, c'est les règles d'hygiène de vie. On va améliorer au moins de 50% l'évolution de l'hépatite C si on fait attention.
Et leur faire attention, ça veut dire quoi? Effectivement, pas d'huile.
Trois choses. L'alcool.
Pas d'alcool.
Pas le poids.
Pas du tout.
Bon, une chute de champagne lors d'un anniversaire, je fais un peu de pub pour le champagne.
Ça peut aller,
mais
c'est vraiment pas d'alcool
régulier. Et quelque chose de très important, qui est méconnu, c'est le poids. C'est la surcharge pondérale, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, nous les médecins. Et déjà, si on fait de l'exercice, si on perd du poids, on peut améliorer considérablement l'hépatite C. Et la troisième chose, ne pas se bourrer de médicaments inutiles. Bien sûr, certains médicaments sont prescrits par les médecins, sont nécessaires, mais prendre des anti-inflammatoires, prendre des médicaments, et puis aussi, on en a parlé, des médecines naturelles, attention, parce que ça peut être toxique pour le foie. Le foie, je vous rappelle que c'est l'organe qui filtre les médicaments, et donc il peut souffrir de trop de médicaments.
Donc, je retiens bien, pas d'alcool, pas de surpoids, et le troisième, j'ai oublié.
Le troisième, les médicaments.
Les médicaments.
Et l'exercice. L'exercice, c'est le meilleur traitement.
Et l'exercice aussi,
c'est bon,
physique,
c'est bon,
c'est
pour
important.
Tout le monde. Oui, oui.
Merci beaucoup, Sédou, pour votre question. On a Stéphane qu'on a retrouvé, Stéphane qui nous appelle de Lomé au Togo, je crois. Stéphane, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute, Stéphane.
Oui, je suis donc Stéphane. Suite à un don de sang, j'ai su que j'avais l'hépatite C. Ma sérologie, c'est VIH est négative. Je ne sais pas donc la maladie actuellement. J'ai une femme et des enfants qui sont sains. Pas de transfusion connue de toute façon. Et je suis un agent de santé. Donc, par rapport aux interventions des différents médecins, j'ai cru entendre qu'il y a interféron. C'est la seule méthode thérapeutique que je connaissais. Bon, je posais la question par rapport aux mesures d'hygiène. À l'instant aussi, j'ai suivi le docteur qui a si bien exposé. Mais ce que je voulais savoir, de façon profane, il semblerait que le fait de boire beaucoup d'eau permettait d'éliminer le virus. J'aimerais savoir si cela est juste. La deuxième question, c'est que par rapport à l'Afrique, je m'adresse plus particulièrement au docteur professeur Diouf, par rapport aux agents de santé. Bon, maintenant, on sait que le virus du sida est précocement diagnostiqué. Est-ce qu'il y a des mesures pour permettre donc le diagnostic automatique pour des patients de façon à couvrir donc les agents de santé dont, par exemple, j'étais l'objet.
Alors, deux questions. D'abord, professeur Marcelin, l'eau, j'imagine, ne permet pas d'éliminer le virus.
Non.
Ce serait trop simple, on n'aurait pas besoin de traitement à 60 000 euros l'année.
Non, mais ça fait partie, c'est bien. Il vaut mieux boire de l'eau que du champagne. Mais non, il n'y a aucun effet de l'eau sur le virus. Et comme on l'a dit, ce qui est important surtout, c'est l'hygiène alimentaire, un régime sain, et puis lutter contre la prise de poids.
C'est ça qui est important.
Avant
de donner la parole au professeur Mamadou Lamine Diouf, puisqu'il y a une partie de la question qui vous concerne, juste docteur Anna Carolina Cardozo, est-ce qu'il y a le même genre d'idées, de rumeurs qui circulent sur l'hépatite C au Brésil ou pas, et ce même recours aussi aux tradipraticiens?
Les tradipraticiens, non, mais en fait, cette habitude de prendre des plantes, des thés, des choses naturelles, ça c'est très fréquent à la maison. Donc il a pas mal des idées au sujet de quelques plantes qu'elles font du bien au foie, qu'elles peuvent éliminer le virus. Et ça, on n'a pas de preuve que ça existe. Donc
et ça peut aussi aggraver la situation. Vous avez vu des cas où ça aggrave la situation?
Oui, on a déjà vu des malades qui font des hépatites toxiques à cause des thés, de plantes. Donc toujours, on recommande beaucoup que ça se fait pas, qu'il prend pas, parce que ça va pas guérir la maladie. On n'a pas de preuve que ça va améliorer quoi que ce soit. Donc, mais c'est assez commun quand même.
Assez fréquent. Professeur Mamadou Lamine Diouf, alors qu'en est-il effectivement du dépistage de ce virus de l'hépatite C? D'abord, est-ce qu'il coûte cher ce dépistage?
Le dépistage lui-même ne coûte pas cher.
C'est quoi pas cher?
Je peux dire, ça peut coûter 10 à 15 000 francs CFA, donc pas quelques euros, pas très cher. Ça, c'est pour les tests sérologiques. Par contre, tout ce qui concerne les tests sur la charge virale, sur l'ARN, sur les génotypes, ces tests sont faits en France, en Europe.
Rejoint ce que nous disait un auditeur tout à l'heure, il faut les envoyer en France.
Il faut les envoyer en France, ça coûte cher. Et le dépistage n'est pas suffisamment fait donc dans la population générale. Souvent, le dépistage est fait chez les donneurs de sang ou bien chez les hémodialysés, chez des patients déjà hospitalisés ou porteurs de maladies à risque.
D'ailleurs, là, c'est impressionnant. Dans tous les messages qu'on reçoit d'auditeurs, là, il y en a énormément qui découvrent être porteurs du virus de l'hépatite C à l'occasion d'un don de sang.
D'un don de sang, tout à fait.
Est-ce qu'on n'est pas de nouveau, je trouve que la comparaison avec le sida est assez intéressante, face à la situation qu'on a eue pendant un temps sur le sida, où on a dit aux gens sur le continent africain, dans les pays en développement, allez vous faire dépister, mais il n'y avait pas de traitement. Donc évidemment, les gens n'ont aucune envie d'aller se faire dépister pour découvrir qu'ils ne peuvent pas se soigner. Est-ce qu'on n'est pas finalement confronté en ce moment sur l'hépatite C au même problème en Afrique? Comment dire aux gens d'aller se faire dépister si derrière, il n'y a pas accès au traitement?
Non, l'hépatite C n'est pas suffisamment bien connue en Afrique.
On parle plus de l'hépatite B.
On parle de l'hépatite B et du sida.
Beaucoup plus, oui.
C'est vrai que...
Professeur Marcelin, oui.
Oui, dans ce que je voudrais dire... C'est vrai, même si l'accès au traitement est difficile, savoir qu'on a l'hépatite C, c'est extrêmement important, puisqu'on peut faire attention à ce qu'on a dit, c'est-à-dire déjà à 50%, on va améliorer son hépatite et éviter la cirrhose, le cancer du foie, si on fait attention à un certain nombre de choses simples.
Donc c'est ça le message à faire passer, finalement,
voilà.
Même si vous n'avez pas accès au traitement.
Faites-vous dépister, il vaut mieux le savoir.
Oui.
C'est pas une maladie contagieuse, parce que il y a eu un certain nombre de questions sur la transmission sexuelle, sur la transmission dans la famille, aux enfants, une transmission congénitale. Non, l'hépatite C n'est pas contagieuse et beaucoup moins contagieuse que l'hépatite B. Mais si on a l'hépatite C, on peut faire attention à un certain nombre de choses, et même si on n'a pas accès au traitement, j'espère que... Et on y travaille dur. Je pense que les choses vont, dans les mois, années qui viennent, on va pouvoir aider les patients pour qu'ils aient accès à ce traitement efficace. 90% de guérison avec 3 mois de comprimés, c'est quand même, bon, il faut que donner la chance à tous les malades. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que parmi les malades atteints d'hépatite C, tous les malades n'ont pas une maladie grave.
C'est ça, pour certains, ça n'évolue pas, voilà. Finalement.
Non, non, ce qu'il faut rappeler, c'est d'ailleurs les transaminases sont quand même un bon marqueur, pas parfait, mais un patient qui a une hépatite C, avec des transaminases toujours normales, qui fait attention, il n'aura pas de problème. Un malade qui a des transaminases élevées, qui fait pas attention, qui a une surcharge pondérale, il peut développer une cirrhose, un cancer du foie. Donc, on considère qu'un malade sur deux a une maladie progressive. Un malade sur deux a une maladie stable et
qui n'évoluera pas. Donc, un malade sur deux n'a finalement pour l'instant pas encore
besoin de
se faire soigner. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Stéphane pour votre question.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'hépatite C à l'occasion du congrès sur les hépatites qui vient de se terminer à Paris. Trois invités autour de cette table, un Français, une Brésilienne et un Sénégalais pour répondre à toutes vos questions. On a Ali qui nous appelle du Tchad. Ali, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi, je vous appelle du Tchad, au sud-est du Tchad. Je suis précisément à Bangor. Moi, je vous appelle de l'hôpital régional de Bangor. Moi, je suis un technicien supérieur de laboratoire. Ma question est de savoir, selon mes informations, l'hépatite C n'a pas de vaccin. Mais tout récemment, ici à Bangor, lors d'une transfusion sanguine, souvent, on a eu une recrudescence de l'hépatite C des médecins. Plus de sur les 150 transfusions qu'on a pu faire sur le mois de juillet et août, nous avons pu déceler plus de 10% des donneurs de sang qui ont l'hépatite C. Ma question est de savoir comment peut-on éviter cette maladie? Mais comment se transmet-elle? Mais pour le moment, il n'y a même pas un vaccin qui est mis en place. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur ça.
Où on en est justement sur les recherches sur le vaccin? Alors les modes de transmission, c'est peut-être bien de le rappeler, on l'a déjà dit tout à l'heure. Professeur Marcelin, est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots les modes de transmission? C'est essentiellement par le sang.
Oui, oui. L'hépatite C, c'est peu contagieux, heureusement. C'est surtout par le sang, les transfusions avant 1990, avant qu'on ait les tests de dépistage. Maintenant, c'est rarissime, c'est, je dirais, zéro, hein, avec la transfusion.
Alors, attendez, est-ce que c'est la même chose en Afrique, professeur Mamadou Lamine Diouf? Il n'y a plus de contamination par transfusion aujourd'hui en Afrique ou pas? On ne peut pas le dire aussi fermement?
Non, pas par transfusion, mais par tout ce qui est objet souillé par le sang.
Oui,
utilisé,
et par transfusion, maintenant, les transfusions, c'est le VHC, donc le virus de l'hépatite C, est testé à chaque fois avant une transfusion.
Tout à fait.
Et vraiment, là, sur le continent africain, pour l'instant, il y a...
Dans la plupart des pays. Je sais qu'à Dakar, il y a plus de 10 ans, on ne le faisait pas systématiquement, mais maintenant, c'est fait systématiquement.
À Dakar et dans tout le Sénégal.
Et dans tout le Sénégal,
c'est fait systématiquement. Au Brésil aussi, j'imagine, oui. Oui, au Brésil aussi.
Le problème, c'est vrai que les personnes qui ont été transfusées il y a 20, 30 ans, 40 ans, peuvent être porteuses d'hépatite C sans le savoir. Mmh. C'est-à-dire que le problème, c'est pas la contamination actuelle, qui est maintenant quasiment nulle.
C'est ceux qui ont été contaminés avant. Voilà. Il posait la question aussi, on en est où du vaccin contre l'hépatite C? Est-ce que finalement... Pas de vaccin.
Malheureusement, très compliqué. C'est un virus qui mute. C'est un virus qui se réplique très vite. Et donc, probablement... je pense pas qu'on puisse développer des vaccins efficaces dans l'hépatite C. La solution, c'est le traitement, c'est pas le vaccin.
D'accord. Et alors justement, avec ces dernières nouvelles, l'arrivée en 2014 de ces nouveaux traitements quand même assez incroyables qui guérissent dans 9 cas sur 10, est-ce que finalement ça va pas faire abandonner les recherches sur le vaccin parce que c'est plus très utile si on sait...
Oui, vous avez raison.
Je sais pas, pour ma question...
Oui, non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que si on a un traitement un comprimé par jour pendant 2 à 3 mois qui guérit 90 à 100% des personnes... On n'a plus besoin du vaccin.
C'est ça.
Mais encore, on revient au problème du coût.
Ce qu'évoquait Ali Djibril.
Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, professeur Mamadou Lamine Diouf, dans ce que dit Ali, c'est que là, effectivement, sur les taux de gens qui donnent leur sang, on est à 10%, donc vous le dites bien, des taux très différents entre certains endroits de l'Afrique, c'est pas ce que vous nous disiez au Sénégal.
Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais.
On voit quand même de fortes différences là-dessus.
D'un pays à l'autre.
Voilà, d'un pays à l'autre. Professeur Marcelin, je voudrais qu'on revienne sur une question que vous aviez évoquée l'année dernière, hein, toujours après ce congrès sur les hépatites, vous venez tous les ans dans cette émission, et vous nous aviez alerté sur les délais de prise en charge en France, qui sont beaucoup trop longs. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez été un peu entendu par les autorités sanitaires? Est-ce que ça s'améliore? Non, vous n'avez pas écouté.
Non, parce que c'est vrai que il ne suffit pas d'avoir des bons médicaments. Ce qui est important, c'est premièrement le dépistage. Je vous rappelle quand même qu'au moins un tiers des personnes atteintes d'hépatite C ne le savent pas. C'est une maladie silencieuse. Et on voit encore des malades. 80% des malades que je vois à ma consultation arrivent avec une cirrhose ou un cancer du foie.
80%?
Oui.
Alors que si on l'avait su avant, on aurait pu éviter ça.
80% des malades que je vois à ma consultation ne savaient pas qu'ils avaient l'hépatite C, et parmi eux, 20-30% arrivent à un stade grave, un peu trop tardif, puisqu'il vaut mieux traiter plus tôt pour prévenir la cirrhose, le cancer du foie, première cause quand même de transplantation du foie en France. Donc, le dépistage. Pourquoi pas le dépistage, comme on l'a dit, systématique?
Alors ça veut dire quoi, ça, le dépistage systématique?
Tout le monde... Monsieur, madame, tout le monde devrait faire une fois dans sa vie une recherche de l'hépatite C.
Et alors ça, on l'organise comment, ce dépistage systématique?
C'est-à-dire
qu'on demande à tout le monde d'aller voir son généraliste, enfin d'aller...
On peut aller dans un centre de dépistage, où on peut demander à son généraliste, la prochaine fois que vous faites une prise de sang pour vérifier le diabète, le cholestérol, s'il vous plaît, rajoutez-moi le test de l'hépatite C, puisque ces 100 000 personnes atteintes d'hépatite C ne le savent pas et n'ont pas de facteur de risque évident.
Et pourquoi c'est pas les médecins qui y pensent, hein? Franchement, c'est aux patients maintenant de le demander?
Le patient, je crois, est plus sensibilisé que le médecin. Il y avait peut-être, on travaille bien sûr sur ce sujet avec la Fédération nationale des pôles et réseaux hépatites et avec l'Association française d'études sur les hépatites, hein, la FEF, et puis les associations de malades. Mais je pense qu'il faut prendre le patient. Doit faire cette demande parce que l'hépatite C est encore très méconnue.
Donc dépistage systématique. Et pour répondre à la question que je vous posais, est-ce que ça s'améliore? Vous m'avez commencé à me dire non. Vous n'avez pas les délais de prise en charge s'améliorent pas.
La prise en charge, si vous voulez, on est débordé.
Vous êtes débordé. Pas assez. Donc quoi? Pas assez des pathologues?
Ce sont des traitements quand même qui sont très spécialisés, qui sont chers, on l'a dit, très chers. Et l'indication du traitement, on a dit que tous les patients n'avaient pas forcément besoin d'un traitement, l'évaluation de la maladie et le suivi du traitement, ça demande des équipes qui sont spécialisées. Et c'est vrai que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de prendre en charge tous les malades qui devraient être traités.
Et j'imagine que c'est encore pire avec l'arrivée de ces deux nouveaux traitements où il y a d'anciens patients qui vont revenir. D'ailleurs, justement, ceux qui n'ont pas réussi à être soignés avec les traitements précédents peuvent revenir vous voir.
Oui, il y a des malades qui n'ont pas répondu au traitement précédent par l'interféron, des patients chez qui on découvre la maladie, des patients qui ont des maladies sévères, une cirrhose. Et là, il y a des dizaines de milliers de patients à traiter.
Docteur Cardozo, qu'en est-il au Brésil? Le médecin brésilien prescrit-il assez souvent justement ce test de l'hépatite C?
Non, en fait, bien sûr, on voudrait que ça soit plus fréquent, que les gens font plus de demandes de ce genre de dépistage, parce que c'est très important, comme on a dit. Découvrir, c'est la chose la plus importante, même si on ne va pas les traiter tout de suite. On peut avoir des mesures qui vont aider que la maladie soit... ça se passe mieux et que la maladie ça soit plus stable.
Donc, manque de dépistage aussi au Brésil.
Oui, tout à fait.
Et sur la question de la prise en charge, est-ce que c'est le même problème que chez nous? Vous manquez de médecins, de spécialistes, de structures pour la prise en charge?
Dans le système public, on a toujours de manque de consultations suffisantes, de médecins suffisantes. Donc, je pense que c'est un problème général. On a toujours moins de ce qu'on avait besoin. Donc, c'est important le dépistage, mais aussi d'avoir plus de médecins, plus d'hôpitaux, une structure puisse avoir meilleur et plus de malades.
Professeur Lamine Diouf, et au Sénégal, les hépatologues, ils ne sont qu'à Dakar, c'est ça ou pas? Ou j'exagère quand je dis ça?
Non, il y a maintenant quelques hépato-gastro-entérologues en dehors de Dakar, notamment à Thiès, mais il n'y en a pas assez à l'intérieur.
Il n'y en a pas assez à l'intérieur du pays, c'est bien ça. J'ai encore deux questions à vous poser, professeur Marcelin, mais il nous reste juste une minute. Un mot d'abord sur le congrès, qui a été, je crois, un grand succès, beaucoup de participants, oui. et de combien de pays en tout?
70 pays, 1300 experts, hein, vraiment des spécialistes qui prennent en charge les malades dans tous les pays et tous les continents. Donc on a discuté comment prendre en charge le mieux possible les malades dans différents pays en fonction des moyens, des ressources disponibles. Et ce que je voudrais dire, hein, c'est pour comme conclusion quand même, il y a un paradoxe. C'est une maladie fréquente, potentiellement mortelle, avec des médicaments qui peuvent guérir la maladie. Et vraiment, il faut qu'on travaille sur l'accès au traitement, dépistage, accès au traitement.
Et accès au traitement dans les pays en développement. Un dernier mot, est-ce qu'on pourra éradiquer cette maladie, l'hépatite C?
On a les moyens d'éradiquer.
C'est ce que vous avez dit pendant le congrès,
quand même. Oui, on a les moyens, mais il faut se donner les moyens.
Alors, c'est toute la question, c'est comment faire et comment se donner les moyens. Merci beaucoup, professeur Marcelin, docteur Anna Carolina Cardozo, d'être venu, vous, du Brésil, et professeur Mamadou Lamine Diouf, du Sénégal. Demain, on parlera des maladies cardiaques. Vous pouvez, dès maintenant, nous faire part de vos questions au 33 1 84 22 75 2 fois.